Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Nous sommes aujourd'hui à Selinkéni dans le cercle de Bafoulabé, localité d'immigration par excellence. Ici, de nombreux jeunes partent très tôt à l'aventure pour chercher un mieux vivre et également trouver de l'argent pour aider leur communauté, leur village, mais également le pays. Mais parfois, cette immigration se fait de façon irrégulière et comporte des risques pour les migrants. Immigration, quel apport et conséquences à Selinkéni? C'est le sujet de notre grand dialogue d'aujourd'hui, délocalisé ici à Selinkéni, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Bafoulabé. Nous avons quatre invités autour de ce plateau. Moussa Diaby, maire délégué de Selinkéni, Boubacar Diaby, un ancien émigré qui est aujourd'hui de retour au pays, Moustapha Diaby de l'association AJDSB, l'association des jeunes pour le développement de Selinkéni à Bamako, et Binta Diaby, représentante des femmes. Sikou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais commencer par monsieur le maire délégué Moussa Diaby. Monsieur Diaby, aujourd'hui, quand on vous demande de parler de l'immigration, qu'est-ce que c'est que l'immigration pour vous?
Soyez les bienvenus d'abord. Je vous salue très bien. L'immigration ici, pour nous, c'est une idée qui était très depuis à l'avant, pour nous faire sortir de la difficulté. Parce que nos enfants, nos frères sont partis à l'immigration. À l'époque, on n'a pas assez de choses de nourrir et la santé. C'est à cause de cela qu'ils sont partis pour nous mettre en bonne condition.
D'accord. Pour vous, l'immigration, c'est l'alternative pour sortir des difficultés.
Pour nous faire sortir des difficultés. Comme j'ai dit, et pour nous, à l'époque, il n'y a pas d'hivernage. On trouvait 10 000, mais en ce moment, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas autre chose. Il faut que les gens sortent. Si tu n'as pas quelqu'un à l'extérieur aujourd'hui, tu ne peux pas vivre. Et si tu es malade, pour te soigner, il faut les immigrés. Il faut que la paix de nous faire venir nous aider à nous soigner. Pour la ration, il faut qu'on nous appelle. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ça. Il faut que les appels les immigrés pour nous faire ça. Mm-hmm. Dans ces cas, pour nous, ça c'est l'avantage pour nous, des immigrés. Mm-hmm. Ouais.
D'accord. Monsieur Moussa Boubacar Diaby, vous avez passé plus d'une quarantaine d'années hors du pays. Vous êtes un ancien immigré. Aujourd'hui, quand on vous demande de parler de votre expérience, de ce que vous avez vécu sur le chemin migratoire et là où vous viviez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Merci beaucoup.
Que vous avez trouvé le salut à l'aventure?
Le chemin migratoire a été toujours dangereux. Parce que c'est l'inconnu. C'est des chemins qui sont semés d'embûches à toute époque. De l'immigration, même l'histoire de l'immigration en elle-même, c'est vrai que c'est un mal nécessaire dans toute l'histoire de l'humanité. À un moment donné, il faut que les gens se déplacent pour le mieux être. Mais quand on se déplace, on va toujours dans l'inconnu. On est toujours clandestin quelque part. Parce que ça a toujours été imposé et ce n'est pas un choix délibéré. Même si c'est par rapport à la personne même qui part que c'est un choix, mais par rapport aux autres pays qu'on part, on s'impose à eux. Parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Voilà la difficulté. Les traversées sont très difficiles. Et l'arrivée est difficile. C'est tout ce que je peux dire.
D'accord. Boubacar, plutôt Moustapha Diaby, vous qui êtes jeune, vous êtes membre de l'association des jeunes pour le développement de Selinkéni à Bamako. Vous avez décidé de rester ici au village, au Mali de façon générale, alors que vous avez d'autres camarades qui sont partis. Oui. Aujourd'hui, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez décidé de rester ou bien vous aviez aussi tenté d'aller en Europe?
Merci beaucoup, M. Gadjigo. La question est pertinente. Moi, je n'ai jamais tenté de partir à l'aventure de ma vie, toute ma vie. depuis à base, j'ai vu que la migration, c'est bien vrai qu'elle est culturelle chez nous, mais quand même, depuis à base, j'ai vu que c'est un phénomène dangereux. Je n'ai jamais tenté l'immigration. Je me suis toujours donné à mes études en pensant qu'un jour viendra, je peux servir mon pays et je peux devenir quelqu'un. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Il y a beaucoup de mes camarades d'enfance qui sont partis en France. Certains sont partis de manière périlleuse. Certains sont rentrés, certains sont restés. Tout ce qu'on peut dire, c'est un phénomène dangereux. Quand même, moi, je n'ai jamais tenté, je n'ai jamais pensé à aller en aventure. C'est tout ce que je peux dire.
D'accord. Pour vous, c'est dangereux. Vous avez décidé délibérément de rester ici,
oui,
connaissant les risques que comporte l'immigration.
Effectivement.
Alors, madame Binta Diaby, vous êtes représentante des femmes. Vous, en tant que femme, comment vous voyez l'immigration? Comment vous percevez ce phénomène ici à Silinkini? Okay. Vous approchez un peu le micro.
Soyez la bienvenue. Je vous salue. La migration, c'est dangereux. Surtout envers nous, les femmes. On est dans les conditions qui sont mauvaises. Ce qui est dedans, tout le monde connaît ça. Vraiment, ça ne nous arrange pas.
Oui. Alors, quand vous dites que c'est mauvais, est-ce que vous voulez dire s'il y a vos frères ou vos maris qui partent à l'aventure, c'est difficile qu'ils reviennent? Est-ce que quand vous parlez de conditions difficiles, vous parlez de ça?
Les difficultés, c'est sûr, nos maris partent. Quand ils n'ont pas de papiers, faire 5 ans, 10 ans, la femme vit derrière le mari, c'est dans nos enfants aussi, et partent de là. Il nous laisse dans la misère. Voilà.
Alors, mais est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que vous savez s'il y a des femmes aussi qui tentent cette aventure, ou bien toutes celles qui partent, elles suivent leur mari? Ou bien certaines se lèvent comme ça pour aller à l'aventure aussi, pour avoir de l'argent?
La femme ne peut pas se lever comme ça pour aller trouver l'argent. C'est ici quand même. Quand tu vois la femme en aventure, que c'est le mari qui l'a amenée. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, madame Diaby. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes continuent d'aller à l'aventure ici à Silinkini, ou bien le phénomène est en train de baisser un peu?
Toujours les jeunes continuent à partir. Toujours les jeunes continuent à partir. Ouais.
Pourquoi? C'est toujours les mêmes raisons.
C'est toujours les mêmes raisons.
C'est toujours là à cause des difficultés.
Des difficultés. Ouais.
Mais est-ce que les conditions n'ont jamais changé ici depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes?
Les conditions sont changées. Ceux qui sont partis, ils ont changé beaucoup de choses. Même les visages du village aujourd'hui, c'est l'immigration qui a changé. À l'époque aussi, tu es rentré dans cette famille-là. Tu ne voyais que des cases avec Apayotte. Aujourd'hui, on voit des bâtiments. Bon, ça change beaucoup de choses, l'éducation, la santé. Voilà.
Alors, monsieur Diaby Boubacar, vous qui avez vécu à l'extérieur pendant très longtemps, aujourd'hui, quand vous voyez que des jeunes continuent de partir malgré les risques auxquels ils s'exposent, est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez toujours cette envie pour les jeunes d'aller à l'aventure?
Je le comprends bien, mais je m'inquiète. Quelque part, je peux dire que c'est un échec économique et social, quelque part. Pourquoi je dis ça? L'immigration, dans toute son histoire, on peut dire que c'est fait pour appauvrir les pays d'immigration et enrichir les pays d'immigration.
Comment ça? Expliquez-nous.
Je vous dis pourquoi. Et quand on voyait les découvertes des Amériques et de l'Afrique, les Américains, ce sont des immigrés européens. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont enrichi l'Amérique. Mais à un moment donné, ils ont appauvri l'Europe. Et quand l'Europe s'est appauvrie, l'Europe a découvert l'Afrique et c'est devenu de la colonisation. Ils se sont enrichis à un moment donné en Afrique, mais ça a appauvri l'Afrique. Voilà le côté le plus difficile. Parce que l'immigration, c'est un mal nécessaire dans la vie immédiate. Mais quand ça dure longtemps possible, c'est sûr et certain, il y a des difficultés. Les pays dans lesquels, comme M. le maire a dit, ça développe, mais il y a des besoins nouveaux qui se créent. Aujourd'hui, le bâti, on est bien. Il y a un certain nombre de sous-alimentations, nous avons combattu. Il y a le problème de la santé, l'éducation, certes, il y a énormément d'améliorations. Ça, il faut le reconnaître. Mais derrière, il y a des problèmes aussi, des besoins nouveaux qui sont créés. Qui dit besoin nouveau, dit encore on a besoin de l'argent. Et l'immigration ne s'arrête pas. Et ça veut dire réellement, il faut que les pays d'émigrés créent leur propre recherche à un moment ou à un autre. C'est ça aussi le danger de l'immigration.
D'accord.
Et s'ils n'arrivent pas à créer leur propre richesse, ça veut dire que c'est une suite sans fin.
D'accord. Nous allons parler des conséquences tout à l'heure, mais je voudrais me tourner vers M. Moustapha Diaby, vous qui êtes jeune et qui avez décidé de rester ici. Est-ce que vous n'enviez pas ceux qui sont partis hors du pays aujourd'hui quand ils retournent, puisque c'est la raison fondamentale qui pousse certains jeunes à partir, parce que quand ils voient ceux qui sont partis à leur retour, voient tout ce qu'ils ont gagné, est-ce que cela ne vous a pas poussé un jour à dire il faut que moi aussi j'aille tenter ma chance là-bas?
Jamais de la vie. Les sens ne sont pas les mêmes. Les sens ne sont pas les mêmes. Et ceux qui sont partis en ont beaucoup fait ici à Selinkéni. Mais si on prend la migration tant que telle, la migration a joué un rôle important pour que les jeunes restent à Selinkéni quand même. Nos migrants ont joué un rôle important pour que nos jeunes restent ici à Selinkéni. Parce que le moment que Bouaka partait en France, c'était dans les années 70, si je ne me trompe pas.
Ouais,
pendant, à ce moment-là, il n'y avait pas de cadre dans ce village, il n'y avait pas de fonctionnaires, rien du tout. Et certes, on a eu l'école dans 70, mais ils sont partis, ils se sont donnés en âme et en conscience pour faire quelque chose pour le village. Ils ont construit ici les écoles pour que ces enfants puissent étudier et rester pour ne pas le suivre. On ne doit pas tenter la migration parce que tel est parti, a fait telle chose. Non. Bien vrai que, je le répète encore, hein, le culturel c'est nous. Mais si les choses évoluent, on doit comprendre. Nous aussi, on doit comprendre cela. Parce que les choses évoluent. La migration, auparavant, il y avait beaucoup de main devant France. Comme vous le savez très bien, après les deux guerres, l'Europe a été complètement détruite. Il faut refaire encore. Il y avait de la main d'œuvre. Mais actuellement, il n'y en a plus. Alors que cette migration a beaucoup de conséquences. Parce que c'est la perte des bras valides. Et tu peux voir une maison sans jeune, c'est déplorable. Si vous pouvez me le permettre, la migration ici, nous jeunes, on a commencé à sensibiliser à Selinkéni à partir des années 2015. Ici, nos parents partaient en Europe, en Afrique centrale, sans problème. Mais depuis dans les années 2010, ils ont commencé la migration irrégulière qu'on a commencé à subir ses conséquences. Vous vous souvenez très bien, en 2015, un certain 15 juillet 2014, si bien 2014, 15 juillet 2014, je me souviens encore, il y avait un bateau qui a fait le naufrage là. Côte libyenne, il y avait 101 migrants à bord, 87 Maliens, dont 20 jeunes de Selinkéni, Madala et Kania, trois villes qui sont frères. Vous savez ce que ça fait? Tout ce phénomène doit faire de telle sorte qu'on réfléchisse un peu, qu'on admette que ce que nous allons chercher ailleurs, on peut le trouver sur ces places. Et n'est nulle part ailleurs, c'est ici. L'Eldorado qu'on cherche là-bas, actuellement, c'est ici, et non ailleurs.
D'accord. Merci. Donc, vous, votre association, vous travaillez, vous sensibilisez les jeunes pour qu'ils se rendent compte des dangers auxquels ils s'exposent en tentant l'aventure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour vous d'essayer de maintenir les jeunes qui sont ici sur place?
Effectivement, nous travaillons de telle sorte que nous puissions sensibiliser nos jeunes à rester sur place. Nous avons commencé ça depuis 2015 jusqu'à présent. Nous avions organisé ici une semaine avec le ministère de Mali de l'Extérieur pour sensibiliser nos populations. Ensuite, à partir de ça aussi, on a eu encore des projets de sensibilisation à partir duquel nous avons fait beaucoup d'activités de sensibilisation. Il y a des assemblées villageoises, des plaidoyers de lobbying pour que nos jeunes puissent y rester. Mais ce n'était pas facile. En réalité, ce n'est pas facile. Parce que quand tu demandes à un jeune de rester, au retour, il faut lui montrer quelque chose à faire. Ici, certes, à Boflabé, aujourd'hui, on peut dire quelque chose à faire ici. Même si avec ces trois unités industrielles-là, il y a quelque chose à faire. Mais les conditions ne sont pas au beau fixe. On ne peut pas dire qu'avec ça, on peut rester. Parce qu'il n'y a pas une adéquation entre l'emploi qui se trouve dans ces usines-là ainsi que la formation est reçue par ces jeunes-là. Mm-hmm. Voilà. Quand même, nous, depuis 2015 jusqu'à maintenant, nous continuons à rêver dans ce sens-là pour que les jeunes puissent rester à les sensibiliser. Mm-hmm.
Oui. Alors, Madame Djabi, vous qui êtes la représentante des femmes ici à Céline Kenny, est-ce que les femmes profitent, vous avez dit, vous êtes confrontées à des difficultés, l'immigration a des impacts négatifs sur vous, puisque vos maris, quand ils partent, c'est pas facile qu'ils reviennent. Mais est-ce qu'il y a des impacts positifs quand même? Est-ce que vous profitez peut-être s'il y a des sœurs à l'extérieur avec lesquelles vous travaillez ici, vous initiez des projets? Est-ce qu'il y en a?
Il n'y en a pas. On n'en est pas ça.
Il n'y en a pas.
Non.
Vous n'avez pas de contact avec peut-être des femmes de Céline Kenny, ressortissantes de Céline Kenny en France ou bien dans un autre pays, par exemple?
Non.
Avec lesquelles vous travaillez ensemble?
Non.
Il n'y en a pas.
On n'a pas ça.
Mais est-ce que les femmes d'ici sont organisées? Il y a une sorte d'association ici?
Non.
Des femmes?
Non.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Alors, en dehors de tout ce qu'on vient de dire par rapport au danger, qu'est-ce que vous savez également comme difficulté, comme danger que comporte cette immigration?
Bon, cette immigration, ce qui est comme danger, nos enfants, voilà maintenant ici, il y a les usines dans nos villages là. Ils travaillent, ils ne trouvent pas les chaleurs. Donc, ils prennent les mauvaises décisions pour aller mourir dans la mer. Ça, c'est une mauvaise signe. Donc, ça, c'est pas bon.
Voilà. D'accord. Monsieur le maire, vous qui êtes l'autorité ici, est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes qui partent ou bien qui tentent de partir, même s'ils ne réussissent pas à l'aventure ici par an? Ou bien c'est pas facile de contrôler cela?
C'est pas facile de parler. Tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est parti, tu n'étais pas au courant. On ne peut pas savoir le nombre qui part par an. Il y a d'autres qui partent, même leurs parents ne sont pas au courant. Dès qu'ils arrivent à Bamako, tu vas entendre qu'ils sont partis à l'Algérie, ils sont partis à Libye, ils sont partis comme ça. On ne peut pas identifier. Mais quand même, dans l'année, de 20 ou 15 personnes, on peut identifier ça. Ouais.
15 à 20 personnes.
Ouais, ouais. Par an. De Paris, Algérie, ou à Libye, ou Gabon. Mmh. Voilà.
D'accord. Mmh. Alors, vous parliez à l'instant de beaucoup d'impacts positifs l'immigration a eu sur le village de Céline Kenny. Les ressortissants de ce village installés à l'extérieur ont fait des réalisations. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces réalisations-là?
Ces réalisations, c'est beaucoup. Comme je vous ai dit, l'éducation, la santé, les permettre le maréchal, ils ont fait beaucoup de choses. Ouais.
Mais pour vous, en tant qu'élu, en tant que maire ici, quelles sont les insuffisances ou bien les limites de tout cela, ou bien les conséquences en un mot?
Les insuffisances qu'on a, surtout avec les jeunes, là, j'ai démarché les jeunes pour que les enfants persistent. Mais ceux qui disaient, bon, les enfants n'ont pas de métier. Même si tu les mets à les jeunes, bon, ça ne peut pas rester. Ceux qui n'ont pas de métier, ils ne peuvent pas travailler pour faire les manœuvres aussi, cela, c'est pas facile.
Ouais. Alors, M. Djabi Boubacar, vous qui avez passé autant de temps en France et même dans d'autres pays et que vous êtes de retour aujourd'hui au village, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les jeunes par rapport aux risques qu'il y a en voulant tenter d'aller à l'extérieur?
C'est-à-dire que c'est difficile. Hein.
C'est difficile de les convaincre.
La plupart des choses, c'est difficile de les convaincre. Bon, heureusement qu'il y a des médias comme les vôtres aujourd'hui qui puissent nous aider. Parce que des bouches à oreille, ce n'est pas convaincant. Comment on peut dire à quelqu'un que vous-même qui avez vécu 50 ans, que vous avez commencé à faire des réalisations et dire à l'autre, ce n'est pas bon. C'est très compliqué.
Oui.
Voilà le côté le plus difficile. Hein. Bon, mais aujourd'hui, avec toute la technologie, avec les radios, un certain nombre de choses sont faciles. Les WhatsApp aujourd'hui, que les gens ils peuvent voir comment les immigrés souffrent. Moi, je pense que ça, c'est très important. De ce côté-là, c'est le côté important des médias qui peuvent faire sortir des idées préconçues dans la tête des gens, que les gens vivent dans le luxe et que c'est très facile. Et à un moment donné, quand les médias et les WhatsApp et autres nous aident à cela, et les Facebook, les gens peuvent peut-être au moins se rendre compte d'une certaine réalité, que l'immigré, il vit plus mal que celui qui est resté. Ça, c'est aussi un des côtés, en tout cas, important de la sensibilisation.
Mais en tant qu'ancien immigré, est-ce que vous, quand vous étiez hors du pays, est-ce que vous avez pensé à faire en tout cas, à réaliser des projets ici qui puissent maintenir les jeunes ici?
Très bien. Parce que là, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit un ancien immigré qui a fait le retour au pays. Vous m'avez présenté comme ça. Mais c'est un paradoxe important. Parce que, en fait, dans ma connaissance des immigrés qui sont en France, il y a très peu de pays qui disent qu'on est retourné au pays. Il n'y a que nous, les immigrés soninkés, qui, même après 50 ans, qui ont encore le mal du pays, qui ont envie, qui investissent, qui reviennent. Voilà la difficulté.
C'est vrai.
Mais revenir dans le pays, à un moment donné, il y a des charges sociales qui vous pèsent chez vous, quand vous êtes immigré à l'extérieur. À un moment donné, vous pensez à réaliser. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est très, très compliqué. Et c'est ce qui fait la suite ensuite. Qu'est-ce qui fait cela? Une immigration, elle vide le pays. Une immigration, elle vide le pays. Et quand elle vide le pays, vous voyez le déséquilibre de la balance. Parce que pour pouvoir développer un pays, il faut qu'il y ait des bras valides. Et quand les bras valides partent, ce n'est pas l'immigré en tant que tel qui pourra faire quelque chose. Et nous, on est dans ce dilemme. On est attaché à nos pays et en même temps, on est de l'autre côté de la barrière. Et beaucoup d'immigrés ne font pas cela. Beaucoup d'immigrés, quand ils partent, ils restent. Ils oublient leur pays. Et dans ma connaissance, il n'y a que les Portugais qui ont réussi à faire cela. On les a trouvés là. Ils sont retournés dans leur pays. Moussaf vient de le dire, mais ils sont revenus qualifiés. La qualification ne concerne pas simplement ceux qui sont restés. Ceux qui sont partis ne sont pas beaucoup qualifiés. Même quand ils veulent le réaliser, ça devient difficile. Vous voyez? Ben, toutes ces sensibilisations-là ne sont pas faites seulement pour les jeunes qui sont ici. C'est fait aussi pour les migrants qui sont là-bas. Et à un moment donné, il faut qu'on pense à cela. Ou on est de là-bas ou on est d'ici. Et mais quand on n'est pas de là-bas, on n'est pas d'ici, et c'est difficile de réaliser comme ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les jeunes. Mais former les jeunes, il faut que les jeunes croient qu'il y a quelque chose au pays. Et s'ils ne croient pas à cela, qui va prendre la relève? L'immigré en tant que tel ne pourrait rien faire. Il a les mains attachées. C'est celui qui reste qui pourra faire tirer la chose. Mais comment le faire croire? C'est difficile.
Comment le faire croire? Nous allons poser cette question à Moustapha aussi. Comment convaincre les jeunes à rester? Vous l'avez dit que ce n'est pas facile. Souvent, si le jeune ne voit pas d'alternative ici, comment vous parvenez à sensibiliser ces jeunes?
C'est très simple. Il suffit de regarder à côté, c'est très simple. Moi, que celui-là, je ne les amène à l'extérieur. Mais Dieu merci. Et mes camarades, même âge que moi, qui sont en France, qu'ils ont fait ce que j'ai fait, c'est moi. Ici, là, quand tu vas en France, la permis de se faire un battement. Je suis resté, j'ai fait un battement. Ça, c'est un exemple. Et il y a des petits projets qui sont là. Moi, en tant que jeune, je suis resté, je suis au village. À chaque projet, j'investisse pour que les jeunes puissent adhérer à ces projets et rester. Il y a beaucoup de projets nationaux ou internationaux qui viennent aider les jeunes afin qu'ils puissent rester. Mais ce n'est pas facile de les faire croire. C'est ça le problème. Sinon, moi-même, j'ai adhéré à un projet, le projet FIER. En réalité, je ne suis pas un porteur potentiel. Mais je me suis engagé pour que d'autres jeunes comme moi puissent adhérer à ces projets-là. Mais on ne dit pas que la peine est perdue, mais c'est très difficile. C'est très difficile.
C'est très difficile.
Oui, c'est très difficile.
Vous êtes également dans le domaine de l'enseignement. Et est-ce que ce phénomène-là impacte également l'éducation des enfants? Est-ce que des jeunes abandonnent l'école très tôt pour essayer de partir?
Très pertinent. En réalité, la migration ici à Selenkeni, elle est très très importante, mais ça a beaucoup de conséquences. Moi, je suis enseignant, directeur d'école du circonscrit de Selenkeni. Mais franchement, en toute réalité, ça a un impact négatif sur l'éducation des enfants. Il y a une très grande différence entre un enfant d'un migrant et un enfant de quelqu'un qui est sur place. L'enfant des migrants, il pense que tôt ou tard va partir. Il s'en fout de ses études. On est confronté à ces problèmes-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Voilà.
D'accord. Une autre question, c'est que votre association qui œuvre pour le développement de Selenkeni, est-ce que vous travaillez en synergie avec des ressortissants d'ici et hors du pays ou bien des associations des enfants de Selenkeni qui sont basés hors du Mali?
Très bien. Au fait, on travaille avec tous les fils de Selenkeni d'ici et d'ailleurs. Tous nos projets de sensibilisation, nous les faisons avec les jeunes de Selenkeni ici place. Nous les faisons aussi avec nos diasporas qui sont en France. Le projet de sensibilisation, le premier projet de sensibilisation que nous avons bénéficié, ça, c'était en concession avec d'autres associations du siècle, des Maïna ainsi que la grande association du siècle de Boflabé ADB. Mais le deuxième projet de sensibilisation, nous avons postulé avec la jeunesse de Selenkeni, parce qu'il y a un bureau de la jeunesse de Selenkeni, différent de, comment ça s'appelle, de la mienne. Nous avons postulé ensemble et nous avons mené ces campagnes de sensibilisation ensemble. Chaque fois, on travaille avec eux pour sensibiliser les jeunes haïtiens. Oui.
Alors, Madame Djabi, vous qui êtes femme, souvent, ce sont vos fils qui perdent la vie dans le désert ou bien dans la mer. Est-ce que vous essayez souvent de sensibiliser ou bien de parler avec vos sœurs ici des dangers de cette migration?
À chaque fois, on se sensibilise pour ça. On parle sur ça de temps en temps. On est contre ça. Moi, en tant que représentant des femmes, on est contre ça.
Mais vous n'avez pas de moyens pour retenir les enfants?
C'est des manques de moyens de retenir des enfants.
Souvent, est-ce qu'il arrive souvent que les enfants la partent même sans que vous le sachiez?
Bien,
c'est après leur départ que vous découvrez qu'ils sont...
Bien, c'est comme ça qu'ils font.
D'accord. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Et aujourd'hui, on voit que Selenkeni, quand même, c'est un gros village. Hein. On voit beaucoup de réalisations, des bâtiments ici. Aujourd'hui, en tant que maire, est-ce que vous pensez que vous-même, au niveau de votre mairie ici, est-ce que vous-même, vous avez des initiatives qui puissent dissuader les jeunes à partir, qui puissent maintenir les jeunes à rester ici, même si c'est en partenariat avec des migrants qui sont ailleurs?
Oui, on a des initiatives pour que les enfants restent ici, parce que ce que j'avais dit, la première fois, on avait démarché l'usine pour qu'ils puissent prendre nos enfants à travailler. Ça, c'est une idée pour qu'ils puissent rester. Mais comme les autres, ce que les autres ont dit, avec le petit salaire là, bon, si tu n'es pas satisfait avec ça, tu ne peux pas rester. Tant qu'on a fait une sensibilisation de faire tout pour qu'ils puissent rester, mais ils n'ont pas voulu rester. Il y a des gens qui partent, on n'est pas au courant. Parce que ce qu'ils trouvent, le salaire n'est satisfait. C'est à cause de cela. Tant qu'on a des idées, on a fait des projets avec des projets fiers pour que les enfants puissent rester, mais toutefois, ils n'ont pas resté.
Donc, malgré toutes les initiatives, les jeunes veulent toujours partir.
Tout partir.
Alors, Monsieur Djabi Boubacar, en tant qu'un ancien, vous qui avez beaucoup vécu à l'extérieur, en dehors de ces risques, de ces dangers, comment la vie à l'extérieur même se passe? Est-ce qu'il y a la perte de certaines valeurs à laquelle vous êtes exposé quand vous êtes à l'extérieur?
Si vous dites, la perte de certaines valeurs, vous êtes très modeste. C'est la perte des valeurs, tout court. On se force, mais on perd toutes les valeurs culturelles, toutes les valeurs sociales. Là-dessus, c'est indéniable. On se force, et malgré tout. Donc ça, c'est le côté le plus catastrophique de cette immigration familiale et individuelle même, hein, quel qu'en soit, avec tant d'années dans le contexte d'un autre pays qui ne vit pas comme vous, qui ne pense pas comme vous, qui ne font rien comme vous. Vous êtes une petite goutte d'eau parmi eux. Même si vous voulez résister, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas chez vous. Et leurs valeurs culturelles prédominent sur les nôtres. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur le maire, il a bien vu quand il est venu là. On s'efforce, mais on ne peut pas. C'est comme quand tu amènes quelqu'un à Selenkeni, il est étranger, il est tout seul. Même s'il s'efforce de parler soninké, il est là, à Selenkeni. C'est les valeurs culturelles de Selenkeni qui va prédominer, malgré tout l'effort qu'il fait. Ça, c'est important pour comprendre ce genre de choses.
Mais selon vous, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour, même si... On ne peut pas mettre fin à l'immigration. C'est, comme vous l'avez dit, vous dites que c'est culturel ici. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer le phénomène?
La seule chose qui peut être faite, elle est très simple. Ça paraît compliqué, mais elle est très simple. Ce qu'il a dit Moustapha tout à l'heure, moi je pense que individuellement, c'est très compliqué. Il fallait qu'il y ait des jeunes qui prennent des initiatives, quelles qu'elles soient, qui donnera des exemples aux autres pour qu'ils croient qu'on peut vivre dans ce pays-là, que ce pays-là a une richesse culturelle, économique, un potentiel, parce que les gens ne croient pas. À partir du moment qu'on ne croit pas à quelque chose, on ne peut pas résister. Même si on va chercher de la souffrance de l'autre côté, c'est le fait qu'on croit à l'autre côté. Et la réalité de l'autre côté n'est pas tout à fait réelle. Mais on ne croit pas chez nous. Donc on pense que si la société, une société civile penchante, qui essaie un moment ou un autre de créer des associations qui ont une conscience qu'on appelle des objecteurs de conscience, même si eux-mêmes ils ne réalisent pas, comme ils font l'HDB, ils disent c'est possible, tout est possible. Et tant qu'on dit que c'est possible, les gens ils vont croire. C'est pas tout le monde en même temps, hein, mais il y a quelques gouttes d'eau qui, au fur et à mesure, ils vont faire quelque chose. La seule façon, le seul moyen, c'est comme ça.
D'accord. Moustapha Diaby, votre association qui œuvre beaucoup pour le développement, mais qui sensibilise les jeunes aussi à pouvoir rester ici, est-ce que vous avez des résultats depuis que vous avez créé cette association? Est-ce que vous voyez le fruit de votre travail?
Avant de répondre à la question, je veux revenir à la question posée à Boakar. Qu'est-ce qu'il faut pour atténuer un peu le phénomène? Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la création d'un centre de formation professionnelle pour les jeunes. Parce que nos jeunes qui sont employés au niveau de ces jeunes-là n'ont pas de qualificatifs. Si l'État peut voir pour créer un centre de formation, afin que nos jeunes puissent rester être employés au sein de ces jeunes-là. Si vous voyez qu'ils se plaignent toujours de ces bas salaires-là, en réalité, c'est ce qu'ils méritent. Parce que quand tu n'as pas de qualificatifs-là, tu ne peux pas prétendre à un salaire aussi élevé que ça. Maintenant, pour revenir à la question, si... En partenariat avec le ministère de Manuel Lesser, nous avons formé des jeunes en menuiserie métallique. Il y a certaines jeunes qui sont restées, qui sont dans les ateliers. Il y a aussi les femmes qui font du savon ici.
Des jeunes qui voulaient partir.
Qui voulaient partir.
Mais aujourd'hui, qui
ont été formés, qui sont restés. Bien vrai qu'il y a certains qui ont abandonné, mais certains continuent jusqu'à présent. C'est un résultat qui est là. Voilà.
Mais est-ce que vous bénéficiez, votre association bénéficie de l'accompagnement, du soutien des autorités sur place ici et de la diaspora également?
On a ce soutien-là sans faille de l'autorité locale ainsi que de la diaspora. Chaque fois que nous aimerons, chaque fois qu'on veut demander quelque chose là quelque part, si en contrepartie on doit financer quelque part, on doit financer, si on demande, c'est parce que nous sommes une association de jeunes. Dieu merci, maintenant il y a beaucoup qui travaillent. Auparavant, nous étions des étudiants. Et pour être soumissionnaire, il faut payer une contrepartie. C'est la diaspora qui paye cette contrepartie-là. À chaque fois qu'on amène aussi un projet au village ici, depuis le préfet de Bafoula jusqu'au le maire de l'île qui est là, il nous soutient à bras le corps. Jusqu'à sa fin. Oui.
D'accord. Madame Djabi, vous, en tant que femme, aujourd'hui, vous, on a l'impression que vous êtes sceptique par rapport aux possibilités de maintenir les jeunes ici, parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution pour qu'ils restent. Selon vous, si on vous demandait de vous adresser à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous allez vous adresser à l'État ou bien aux autorités locales ou bien à vos parents qui sont hors du pays pour qu'ils puissent faire quelque chose pour maintenir les jeunes ici?
Bon, nous allons nous adresser à l'État.
À l'État.
Oui.
Qu'est-ce que l'État doit faire, par exemple?
L'État doit nous aider. Comment on peut s'en sortir?
Selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, par exemple? Créer des emplois ou bien quoi, concrètement?
On peut créer les emplois. Mm-hmm. Si, en tout cas, quand même, nous, on peut se débrouiller. Mm-hmm. Mais on n'a pas de possibilités. Mm-hmm. On a des manques de moyens. Mm-hmm. Voilà.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de... Est-ce qu'on peut trouver beaucoup de femmes ici à Silinkéni dont les enfants ou les maris sont à l'extérieur depuis plus de plusieurs années?
Il y en a.
Il y en a beaucoup?
Oui, avec les maris.
Non, c'est-à-dire, je veux dire, est-ce qu'il y a des femmes ici à Silinkéni,
mm-hmm,
qui ont des enfants ou bien qui ont leur mari à l'extérieur mais qui ne parviennent pas à revenir depuis des années?
Il y en a.
Il y en a.
Oui. Oui.
Mais ces femmes, comment elles parviennent à vivre ça? Comment elles arrivent à vivre ça?
Elles vivent en tout cas dans les difficultés. Mm-hmm. Oui. C'est pas facile.
D'accord. Mais, monsieur le maire, aujourd'hui, parlant du développement de la commune, ces jeunes-là se battent beaucoup pour ça. Est-ce que vous les soutenez, souvent vous travaillez avec eux en initiant des projets, même si c'est pour la sensibilisation?
Si, on travaille avec les enfants, mm-hmm, à toutes sortes, financièrement, techniquement, avec moi, avec tout ce qu'ils nous demandent de le faire, on les aidera avec ça. Oui.
Est-ce que vous voyez aujourd'hui la nécessité de la création de cette association?
Si, si. Comme je le disais, avec les enfants que j'ai formés pour le seuil-là, on a fait ensemble. Il y a ces enfants qui sont là, toujours, ils sont là dans leur atelier. Ouais.
Alors, vous, pour... pas combattre le phénomène, mais en tout cas pour atténuer, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Comme il dit, il faut qu'on doit avoir un centre de formation pour que les enfants puissent rester.
Vous pensez que c'est suffisant?
Bon, on commence avec ça d'abord. Mm-hmm. Si on entre dans ça, on peut avoir une autre idée qui peut les retenir. Mm-hmm. Ouais.
D'accord. Monsieur Djabi Boubacar, vous qui avez vécu à l'extérieur, vous avez vu ces états-là et vous voyez nos états ici, notre état ici. Est-ce que vous pensez que l'État peut changer les choses ici?
Moi, je dis que les états, ils changeront quand nous-mêmes, nous prenons les initiatives. Je reviens toujours à l'association des jeunes. C'est le cœur même. Pourquoi nous sommes restés 50 ans, 60 ans? Parce qu'il n'y avait pas une association telle que c'est. On parlait toujours sur le problème d'individu. L'individu ne peut pas changer une nation. C'est la collectivité. Si la collectivité, s'il n'y a pas des objecteurs de conscience qui s'organisent autour de quelque chose d'une idée, une société ne changera pas. Même les grandes sociétés développées, l'État, c'est vrai qu'il vient en appui aux initiatives locales, aux initiatives des associations, aux initiatives des jeunes, des femmes. Après, ils donnent des subventions. Moi, je me fonde beaucoup d'espoir sur cette association des jeunes. Aujourd'hui, il est incontournable. Aujourd'hui, il n'est pas assez connu. Et il faut qu'on le connaisse, qu'on le sensibilise. Même nous-mêmes, les 50 années d'absence, si on avait quelque chose qu'on avait créé au départ... Certes, il y a des promotions sociales individuelles, mais la promotion sociale individuelle ne fait pas une nation. Une nation se fait sur une collectivité. Et la collectivité, aujourd'hui, elle n'est pas construite. Voilà le problème avec l'immigration dure. Parce qu'on est sommes dans l'immigration individuelle. Et le jour où ces associations-là, on les multiplie, on les aide, c'est sûr et certain, il y aura un renversement de la situation. Mais tant qu'il n'y a pas des associations comme ça, moi je pense que ça ne se fera pas.
Alors vous, vous êtes parti depuis les années 70. Quelle est la différence entre l'immigration pendant cette période-là et aujourd'hui? C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de pouvoir partir. Et une fois arrivé là-bas, quelle est la situation? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile?
Bah, il est évident, les pays d'immigration se sont renfermés sur eux-mêmes. Mm-hmm. Déjà, ils sont en crise économique. Depuis dans les années 73, avec la crise du pétrole, toutes les usines sont fermées en France. Où nous sommes dans la modernisation. Le même phénomène que Moustapha vient de le dire, ça nous frappe aussi en France. Quand on part que des, on, nous sommes que des ouvriers, main d'œuvre non qualifiés. Les usines dans lesquelles on travaille sont fermées. Mais la réalité, il faut qu'on le raconte aux gens qui comprennent. Puisque ce qu'il a dit ici, beaucoup de gens ne sont pas formés. Et vous avez bien vu le phénomène, il y a des usines où les jeunes ne sont pas formés. Ils ont le bas salaire. Ils ne trouvent pas de l'emploi. Nous, nous partons en France aussi, on va dans la même condition. Nous ne sommes pas formés, on n'a aucune formation. Et quand on arrive, on touche le même bas salaire. Vous voyez? Donc la formation, elle est incontournable. Même si on ne trouve pas du travail chez soi, le monde, il est ouvert. Quand on part ailleurs, même aux États-Unis ou n'importe quel coin, ça se trouve qu'on est formé. C'est de l'avenir. Donc il a touché aujourd'hui le cœur même des problématiques de l'avenir, de la jeunesse, de l'immigration, du développement économique. Tant qu'on n'arrive pas à ça, on le minimise aujourd'hui. Mais c'est l'essentiel. Sinon, on ne peut rien faire.
D'accord.
Même ceux qui partent, quand ils vont là, ils vont être ouvriers, ils vont être mal payés. Voilà la vérité.
D'accord. Moustapha Diaby, on l'a dit, hein, il faut vraiment le développement pour pouvoir maintenir ces jeunes ici. Est-ce que ce développement va passer par les initiatives locales ou bien c'est l'État?
Par les initiatives locales. Il faut toujours avoir des initiatives collectives, mm-hmm. locales. Mm-hmm. Ensuite, l'État viendra en appui. Mm-hmm. Avec ces initiatives, l'État est obligé de vous appuyer. Mm-hmm. Mais si celle-ci manque, alors l'État, c'est un tout. Et les coins qui auront ces initiatives-là, l'État va les appuyer. Mais si un coin manque des initiatives-là, l'État va ailleurs. Parce que l'État ne peut pas tout faire, en réalité. L'État ne peut pas tout faire. On peut même avoir des initiatives locales bien fondées. Mais l'État, avant que l'État ne vienne en appui, ça va trouver que vous avez assez fait. Mais il faut qu'il y ait d'abord ces initiatives locales-là pour que l'État puisse venir en appui. Voilà.
D'accord. Madame Diaby, un dernier mot de votre part concernant ce phénomène aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Bon, ce que nous avons à dire, pour nous les femmes de Sélénkéni, on a besoin d'aide. Quand on trouve un appuiement, on peut se débrouiller au lieu d'aller ailleurs pour se maltraiter là-bas. Mm-hmm. Oui.
Donc vous, quand on a des projets pour vous ici, vous êtes prêt à mettre en œuvre ces projets?
On est parti sur ça. Mm-hmm.
Oui. D'accord. Monsieur le maire, un dernier mot par rapport à ce phénomène de migration ici à Sélénkéni. Si vous avez un message à lancer aux jeunes de Sélénkéni d'ici et même de ceux qui sont déjà partis.
Oui, on a un message à lancer aux jeunes. Comme Moustapha disait, tout le monde va se sacrifier de faire quelque chose pour que tu puisses rester. Alors, il y a des projets qui viennent à l'occulté. Il faut te renseigner, de demander ce projet pour que tu puisses rester. Parce que il y a des projets de jardinage. Même l'autre jour, il y a un petit ici qui est parti faire la formation. Il y a eu ce réspicé. Avec ce projet-là, tu peux rester. Il faut que les gens prennent du courage de ne pas aller ailleurs, de rester, de travailler ici. Où il y a un de mes fils, le M. Kaoulé. C'est un enfant. Mm-hmm. Il a enseigné l'infirmerie
et l'élevage.
Mm-hmm. Même hier, il a appelé d'aller soigner mes animaux. Mm-hmm. Avec ces petits précieux ici, il ne faut pas qu'il voit les gens qui sont ailleurs, mm-hmm. qui viennent avec beaucoup d'argent, mais en récoltant un peu, un jour aussi, il peut gagner. C'est ça que je lui ai dit, les petits qui sont ici. Mm-hmm. C'est ça le dernier mot que j'ai à dire.
D'accord. Merci à tous. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue délocalisé aujourd'hui à Sélénkéni. On parlait d'immigration, quels apports et conséquences pour ce village d'immigration par excellence. Nos invités étaient monsieur le maire délégué Moussa Diaby de Silinkeni, Boubacar Diaby, un ancien migrant qui est aujourd'hui au pays après avoir vécu pendant plusieurs décennies hors du Mali, Moustapha Diaby de l'AJDSB, l'association des jeunes pour le développement de Silinkeni à Bamako, et madame Binta Diaby, représentante des femmes de Silinkeni. Cette émission a été réalisée grâce aux opérations techniques de Gagny Kanté, qui était à l'image et au son, assisté de Moussa B. Sidibé. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine.